Le règne animal. Le nouveau film Événement de Thomas Caillet.
C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe.
Un choc absolu pour le Parisien. Un coup d'éclat ahurissant pour Télérama. Absolument bluffant pour Première.
Il y a des survivants, j'en ai vu hier soir.
Romain Duris, Paul Kircher, Adèle Exarchopoulos. Le règne animal, actuellement au cinéma.
Bonjour, je vous propose une émission qui avait été diffusée pour la première fois le samedi 2 août 2003. Une émission qui s'intitulait « Le retour du bon pain ». Une résurgence du XVIIIe siècle avec un point d'interrogation. Mon invité étant Steven Kaplan.
Concordance des temps. Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Quelques jours après l'arrivée d'un nouveau Premier ministre à Matignon, Le Monde, daté du 16 mai, publiait en première page un article dont le titre était surprenant et dont l'auteur était très savant. On lisait « Raffarin au fournil » par Steven L. Kaplan, professeur d'histoire européenne à l'université Cornell aux États-Unis. Il ne s'agissait pas, malgré ce qu'on aurait pu croire, de l'image banale du ministre qui serait à la fois au four et au moulin, mais d'un rappel tout à fait concret. Jean-Pierre Raffarin, chargé du commerce et de l'artisanat dans le gouvernement Juppé de 1995-1997, y aurait rendu à l'époque leur morale aux boulangers artisans de France par un encouragement psychologique et par des mesures réglementaires d'incitation à la qualité et de protection contre les grandes surfaces. Ce qui lui a valu, dans le milieu du pétrin, le surnom affectueux de « Raffarine » et, à la première page du même quotidien du soir, l'avantage que dans les caricatures de Plantu, il apparaisse toujours avec une baguette sous le bras. Dans ces conditions, vous comprenez bien que je me devais d'inviter Steven Kaplan à ce micro. Pas tellement parce qu'il affirme, je le cite, qu'il y aurait une méthode Raffarin, une façon de mettre la main à la pâte qui laissera peut-être sa marque à Matignon. De ça, on pourra juger plus tard. Non, c'est surtout parce qu'il est l'auteur de deux livres importants et joyeux, consacrés l'un au boulanger de Paris au XVIIIe siècle et le second, tout récent, au retour du bon pain. Le retour du bon pain, c'est le titre, évidemment optimiste, avec de l'un à l'autre une concordance des temps qui apparaîtra à tous nos auditeurs. Sa conviction, c'est que depuis l'Ancien Régime, les Français ont entretenu avec leur pain quotidien une relation profonde et particulière, et que rapprocher hier et aujourd'hui sous cette lumière permet d'apprendre beaucoup sur la spécificité de notre nation, sur ses contradictions, ses faiblesses et aussi ses soudains retours d'énergie.
Manger du pain, manger du pain, manger du pain.
Le sel donne un goût au pain. Et l'amour goût à la vie, l'amour c'est le pain de la vie. Sans amour le cœur meurt de faim, l'amour c'est comme le pain. En manger trop rassasie, mais jusqu'au bout de la vie, il en faut soir et matin.
Manger du pain,
manger du pain,
manger du pain.
C'était la chanson bien sage que chantait à pleine voix autrefois dans un village. Tous les jours de chaque mois, un petit boulanger qui pour vendre son pain avait trouvé ce refrain. Le sel donne un goût au pain et l'amour goût à la vie. L'amour c'est le pain de la vie. Sans amour le cœur meurt de faim. L'amour c'est comme le pain. En manger trop rassasie, mais jusqu'au bout de la vie, il en faut soir et matin. Manger du pain, manger du pain.
Manger du pain, manger du pain.
Thank you.
manger du pain, manger du pain.
Le sel donne un goût au pain, et l'amour doux à la vie. L'amour c'est le pain de la vie, sans amour le cœur meurt de faim. L'amour c'est comme le pain, on le partage en compagnie, on le mange avec sa mie ou bien l'ami du voisin.
Ou bien l'ami du voisin. Manger du pain.
C'est Yvette Giraud qui chantait « Le pain et l'amour » de Castel et Castille en 1955. Steven Kaplan, bonjour.
Bonjour.
Cette chanson nous introduit immédiatement dans un aspect très important. Notre sujet, c'est la relation entre le pain et l'érotisme.
Tout à fait. Et un érotisme compliqué, parce qu'il y a d'abord l'érotisme, comment dirais-je, christologique, l'amour du Christ. « Ceci est mon corps ». L'annonce quand même de la bonne nouvelle, la promesse du salut, donc l'amour suprême. Il y a d'autres formes, disons, moins nobles, donc figurées par le pain de diverses manières. Mais on est ici à la fois, on est au carrefour du symbolique et du matériel. Le pain dont on a besoin, c'est une nécessité jusqu'à un certain point. Et puis le pain qui devient plaisir et donc qui dépasse métaphoriquement le problème de survie pour devenir une source de gratification, je dirais, charnelle. D'où donc la notion que l'amour, c'est le pain de la vie. Je trouve ça très touchant et très juste.
Cette dialectique entre le réel et le symbolique que vous marquez si fort dans vos deux livres, elle concerne probablement le retour au goût du pain qui marque, selon vous, la société française aujourd'hui et qui renverrait à une certaine façon de consommer cette nourriture primordiale au XVIIIe siècle.
Oui, je crois que la formule de Pascal était juste. On est tenu à la fois par les cordes de la nécessité, par les cordes de l'imagination. Au XVIIIe siècle, c'était les deux. C'était d'abord, on ne pouvait pas s'en passer. C'était la source de la plupart des calories de la plupart des gens. Mais en même temps, c'était une notion qui était replète de sens, qui voulait dire un tas de choses concernant donc l'organisation sociale, la justice sociale, la légitimité du pouvoir, car le prince, c'était surtout un prince nourricier, et le contrat social était signé autour, justement, non pas d'une baguette, parce que c'était surtout une miche ronde à l'époque, mais c'était quand même du pain. Donc déjà, on a cette spécificité, et puis au-delà de cela, déjà, on voulait pas seulement du pain en quantité suffisante, mais on voulait du pain en qualité qui était bonne, et pas simplement un pain qui pouvait donc nous remplir. Or, les Français étaient autant tentés de se révolter contre un pain de mauvaise qualité que contre la pénurie du pain.
Et bien voilà un menu riche pour notre conversation, Steven Kaplan, autour de cette relation étrange qui, depuis si longtemps, relie les Français à leur pain. Alors, revenons en arrière avec vous, comme vous le faites dans vos ouvrages, jusqu'à la France du XVIIIe siècle, pour essayer de voir comment et pourquoi la part du pain dans l'alimentation, là on est en termes très, très concrets, a pu évoluer et en gros diminuer au cours des âges.
Oui, bon, on commence avec un moment où le pain constituait vraiment le noyau du menu quotidien de la plupart des gens.
600 grammes par jour et par personne
plus,
à peu près, plus même.
Plus. C'était sûrement pour les... Il faut avoir un regard socialement différencié. Le travailleur, il en mangeait 2 livres, un bon kilo, même un peu plus. La femme du ménage, un peu moins, évidemment, peut-être un livre ou 600 grammes.
Les Parisiens moins que les provinciaux déjà.
Sans doute, mais encore que si on était décroteur, si on était porteur portefeuille au hall, on en mangeait même 3 livres selon Mercier. Or, ça c'était normal parce qu'on n'avait pas les moyens de diversifier son régime alimentaire. On était tenu, donc on était contraint par son salaire. On gagnait 20-30 sous par jour et on dépensait la moitié, 50% de son budget en pain. Et quand le prix de pain monté, on était obligé même de consacrer tout son budget au pain, c'est-à-dire il y avait là donc le début des crises économiques terribles parce que il y avait une sous-consommation industrielle radicale. Plus tard, avec l'amélioration donc du niveau de vie, avec la démocratisation dans tous les sens, graduellement, on va vers un régime plus diversifié. Mais tout de même, à la fin du 19e, on est toujours à 800-850 grammes pro capite, enfin par tête. Et donc, le grand changement, c'est avec cette espèce de deuxième industrialisation où la mécanisation générale permet aux gens de dépenser moins de calories, c'est-à-dire d'avoir moins de besoins énergétiques. Et à ce moment-là, on pouvait imaginer d'autres façons de manger le pain. Et c'est là où ça commence à chuter. Et c'était une chute quasiment constante, mais une chute qui n'était pas simplement une chute, disons, du progrès, une chute, disons, naturelle. Car au-delà de ce qui était normal, c'est-à-dire diversification, ascension sociale qui apporte d'autres mets, et de la viande, des fruits et des légumes, on va vers ces changements profond, métaphorique, où on laisse tomber le gagne-pain pour le gagne-biftec, ça arrive tout doucement. Mais au-delà de cela, il y avait deux choses importantes. Il y avait la malédiction médicale. Les médecins ont jeté l'anathème sur le pain.
Ça vous irrite énormément, Stephen Kaplan.
Oui, parce que c'était idiot. Enfin, je veux dire, c'était un regard quasiment de charlatan. Pas seulement la notion que le pain grossissait. Bon, ça
faisait grossir, vous voulez dire.
Oui, faisait grossir. Pardon.
Le pain diminue au contraire.
Tout à fait. C'était peut-être pas un argument spécieux dans certains cas. Quoique ce n'est pas le pain qui fait grossir, c'est ce qu'on met sur le pain. Bon, passons. Mais c'était aussi que le pain était la source du cancer, la source des maladies cardiaques. C'était la source de tout ce qui était toxique dans le monde. C'était vraiment.
C'était un délire.
C'était terrible. Et puis, au-delà de cela même, à la fin donc de la Deuxième Guerre, vers les années 70, il y avait une désaffection, disons, esthétique, c'est-à-dire le sentiment de la part de beaucoup de Français que ce pain n'était plus bon. Donc si le pain était déjà toxique, et si en plus on n'avait pas autant besoin pour vivre, et en plus ça faisait plus plaisir, c'était pas la peine d'en manger.
J'ai un document pour vous, Stephen Kaplan, qui est tout à fait éclairant à cet égard, qui remonte au 1er novembre 1947. C'est une archive de Paris Inter, au moment où on décide la suppression de la carte de rationnement du pain.
Et aujourd'hui même, 1er novembre de l'année 1945, la carte de pain a vécu. Vous pourrez acheter sans avoir besoin d'exhiber et de découper en morceaux votre petite feuille que vous connaissez si bien. Eh bien, nous sommes dans une boulangerie. À côté de nous, deux dames qui viennent d'acheter leur pain. Nous allons nous adresser tout d'abord à une dame. Comment vous appelez-vous, madame ?
Madame Boris, rue de la Jonquière, à Paris.
Oui. Eh bien, madame, je voudrais savoir ce que vous pensez de la suppression de la carte de pain.
Je trouve que c'est une grande chose. Et pour moi, ça ne me prive pas. Enfin, je n'étais pas beaucoup privée auparavant parce que j'avais largement
quoi faire
assez de tickets.
C'est ça, vous ne mangez pas beaucoup de pain.
Je ne mange pas beaucoup de pain. Mmh. Et même cette carte me permettait même d'en envoyer à ma famille tous les mois. Mmh. Mais seulement, moi, pour moi-même, j'aurais préféré la suppression de la carte de viande que la carte de pain, cela m'aurait mieux arrangé.
Oui, je comprends ça, mais enfin, avouez tout de même qu'il y a un gros effort d'accompli.
Oui, et je trouve que c'est beaucoup mieux parce que les gens mangent davantage de pain que le reste. Et j'en ai la preuve parce que chez moi, je sais comment ça se passe.
Oui, c'est la nourriture de base, le pain. Eh bien, madame, je vous remercie. Et vous, madame, qui êtes à côté du micro, comment vous appelez-vous ?
Madame Mira.
Bon, eh bien, madame, la même question. Que pensez-vous de la suppression de la carte de pain ?
Bien que
approchez-vous, n'ayez pas peur, approchez-vous du micro, allez-y.
Bien que je ne sois pas une forte mangeuse de pain, j'apprécie énormément cet effort qui est pour moi même un geste symbolique et qui nous permet d'entrevoir des améliorations bien
futures.
Ou c'est ça, en ce qui concerne par exemple les textiles.
C'est ça, oui.
Et aussi la carte de tabac.
Ah, la carte de tabac, vous êtes fumeuse peut-être.
Oui, je suis fumeuse.
Enfin, nous n'avons pas encore la carte de tabac, nous sommes à la carte de pain pour le moment. Vous mangez, enfin vous êtes une famille qui mangeait beaucoup de pain, non ?
Non, pas beaucoup. Jusqu'à présent, j'étais toujours seule. Et alors, je mangeais au restaurant, je mangeais mes 200 grammes. Ou parfois,
200 grammes de pain, vous avez eu de la chance de manger que 200 grammes de pain par jour. Il y en a beaucoup qui mangeaient plus que ça, je vous le prie de le croire.
Ah oui, je le sais, parfaitement.
Eh bien, je vous remercie, mesdames. Vous allez avoir votre carte de tabac bientôt, nous l'espérons. Vous n'avez plus de carte de pain, bientôt espérons également qu'il n'y aura plus de rationnement. Ça va déjà mieux.
Et moi, j'échangerai ma carte de tabac contre une carte de viande. Chaque mois, naturellement.
Le reporter était André Bourrillon, voilà une forme de journalisme très didactique et très soucieux de ne pas mettre en cause des décisions gouvernementales, Stephen Kaplan.
Non, il était très contrarié, ce pauvre journaliste, parce qu'il aurait aimé qu'on fasse vraiment une explosion de jubilation parce que le pain était de retour.
Non, pas du tout.
Non. Et c'est intéressant parce que la femme qui dit « je ne mange que 200 grammes », déjà c'est aujourd'hui. On disait au boulanger, on ne mange que 200 grammes, ils en seraient absolument ravis.
C'est combien aujourd'hui ?
150, 155, mmh. pas plus. Mais ce qui est quand même un peu surprenant, c'est qu'on a l'impression tout de même que la libération voulait dire pour beaucoup de gens tout de même un retour à un pain qui était moins bi, qui n'était pas le pain caca, comme on disait pendant la guerre, parce que ce pain-là était souvent répugnant. On a dans les lettres des grands romanciers, on a aussi dans la correspondance de gens simples, comme un leitmotiv que ce pain de la guerre, c'était vraiment un pain de misère, mais plus c'était un pain de la tyrannie, un pain de la privation. Donc je crois en fait il y avait après la guerre un engouement, peut-être plus sur le plan disons symbolique que sur le plan pratique, de retrouver un pain qui avait un bel aspect, qui était la rassurance que la liberté allait se concrétiser par le progrès, entre guillemets.
On sait bien ce qu'est un mauvais pain, effectivement, mais sur définition du bon pain, on est frappé de voir au contraire des variations d'une époque à l'autre. Il y a toujours quatre critères, en gros, les qualités nutritionnelles, les qualités hygiéniques, les qualités économiques, et puis finalement, ce qu'on appelle de façon un peu pédante, organoleptique, c'est-à-dire est-ce qu'on a plaisir du point de vue de l'aspect, du goût, de l'odeur, de la consistance. Ouais. À cet égard, ces quatre critères se combinent de façon variée selon les époques.
Tout à fait. À notre époque, par exemple aujourd'hui, l'époque de les farines de la vache folle, à l'époque des hormones américaines, à l'époque donc où des organismes génétiquement modifiés, évidemment, les critères hygiéniques priment énormément. Les critères économiques, bon, aujourd'hui, on est dans une logique autre que la logique de grande pénurie. Donc, il y a plus, disons, d'extensibilité du budget. Il y a plus d'élasticité de demande, comme on disait aussi en termes un peu savants.
On éloigne Jean Valjean en volant la miche de pain.
Oui, c'est pas de tout ça. C'est plus aujourd'hui. Et c'est pas, enfin, dans le temps vraiment, on passait toute sa journée, un tout petit peu comme les gens à l'âge de la cueillette et de la chasse, on passait tout son temps à trouver du pain.
À gagner son pain, à sueur de son front.
Mais littéralement, c'était littéralement cela pendant très très longtemps, même dans les grandes enquêtes de 1859, quand Le Play voulait savoir, Le Play, le grand sociologue, pourquoi ce pain incarnait toujours tellement d'angoisse et tellement d'espoir, c'était toujours ça. Ça n'a pas changé. C'est vraiment un système, un écosystème qui dure pendant 500, 600 ans. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est dans la logique surtout organoleptique, gros mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire surtout, sur le plan sensoriel, le plaisir qu'on peut avoir. Et c'est un plaisir de la bouche, c'est un plaisir du nez, mais aussi du toucher, aussi de lui. Enfin, et le pain donne tout ça dans des doses très variables.
Louis, c'est le bruit de la croûte qui sous les doigts, c'est ça?
Voilà,
c'est les cinq sens.
Voilà, c'est le bruit d'abord quand le pain sort du four. Le pain doit chanter. En se desséchant, ça fait des craquelures. Et puis, quand vous tapez sur le pain, ça doit faire comme un tambour. Et quand vous mettez ça dans votre bouche également, il y a un son. Il y a aussi le sens tactile que vous avez avec vos mains, mais aussi dans votre bouche, où les récepteurs donnent à votre cortex la bonne nouvelle qu'il y a de quoi vraiment anticiper un grand plaisir. La mâche, donc, très importante, qui annonce, donc, sur le plan gustatif et olfactif, d'autres plaisirs possibles, si c'est bon ou si c'est pas bon. Et puis l'aspect, c'est la vue, tout de suite, ça commence avec ça.
Je dois dire que vous aimez admirablement le pain, Stephen Kaplan, et j'ai le souvenir personnel d'avoir été un jour au restaurant avec vous dans le midi, et de vous avoir renvoyé le garçon qui vous apportait quelque chose que vous n'acceptiez pas de baptiser pain, avec une jubilation, une brutalité conjuguée qui en fait mon admiration. Il y a cette notion qui évolue, qui est la notion de pain blanc.
Oui.
La notion de pain blanc qui était le nec plus ultra du pain pendant très longtemps. Et puis aujourd'hui, c'est plus le cas parce qu'on aime le pain bis, le pain complet.
Exactement. C'était quoi le pain blanc? Dans le temps, le pain blanc était l'apanage donc d'un monde aisé, d'un monde riche, d'un monde dominateur. Or, à Paris et dans d'autres grandes villes, le peuple exigeait très précisément précocement que leur pain soit au moins bi-blanc, c'est-à-dire presque blanc. Et à Paris, Paris-Babylone, selon les provinciaux qui étaient mis à charge pour ça, mis à contribution, déjà les Parisiens mangeaient un pain blanc. En 1859, encore une fois, quand on interviewait les ouvriers, ils disaient « on a honte d'aller à l'atelier si on n'a pas un pain blanc ». On est pauvre, oui, d'accord, mais sur le plan du pain, on veut être l'égal des autres. Et on ne veut pas le pain de l'égalité de la Révolution française, qui était une égalité par le bas, une réduction par le bas, c'est-à-dire la solution Robespierriste, c'était tout le monde va manger un pain dégueulasse. Ce n'était pas la bonne idée. Donc le pain blanc incarnait tout ce qui était de bon. Or, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce pain blanc a disparu, et c'était un pain hyper bi, un pain mais vraiment répugnant. Donc à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, les boulangers ont fait tout pour faire un pain hyper blanc, plus blanc que blanc. Et ils ont trouvé, tout à fait par hasard, une nouvelle méthode, qui venait de l'Ouest contre-révolutionnaire, qui nous faisait la grande révolution du pain moderne, c'est-à-dire ils pétrissaient plus vite, beaucoup plus vite, deux fois plus vite et plus longtemps. Et ça donnait un pain volumineux, un pain mais vraiment gonflé à bloc et un pain hyper blanc, tellement blanc que c'était dénaturé, que c'était lessivé. C'était la combinaison et de la vitesse et de la présence de la fève, une farine de fève, c'était tout à fait légitime à l'époque, dans la farine. Et puis tout ça qui était dopé par l'acide ascorbique, un tout petit peu comme ce qu'on fait sur le Tour de France quand on veut aller un peu plus vite, on met des additifs. Donc dans le système des coureurs, or là,
Virenque et le pain blanc, même combat.
Même combat. Or le résultat, c'était un pain qui était beau, mais qui n'était pas bon, qui n'avait aucune sapidité, qui était creux, mais qui était vraiment vide de goût. Et à ce moment-là, les consommateurs ont commencé à dire, oui, c'est bien beau d'avoir un pain blanc, mais c'est pas bon. Or pour faire un pain blanc, il fallait revenir sur notre système. Un système qui donnait une longue première fermentation, ça s'appelle le pointage, qui enlevait donc les additifs et la fève et l'acide ascorbique, et qui donnait un pain qui était plutôt nacré, qui était mi-crème et pas de tout blanc. Et ce pain-là avait un alvéolage. L'alvéolage, c'est les trous qui sont faits par la fermentation, des lieux de mémoire inscrits dans la mie.
On dira ça à Pierre Nora.
Et ce pain-là, évidemment, c'est un pain autrement intéressant. Mais hélas, 80% des Français aujourd'hui continuent de manger ce pain blanc fait en four rotatif de façon quasi industrielle, j'allais dire à l'américaine. Et le problème pour nous, c'est que comment dire ça aux Français? Moi, je suis pas la police foucauldienne qui annonce aux gens vous mangez un pain mauvais. Ça serait
foucauldienne au sens de Foucault, vous voulez dire?
Voilà, je veux dire Michel Foucault. Dans le système de discipline,
de répression,
de dire vous n'avez pas le droit de manger un mauvais pain. Parce que c'est contre l'esprit du patrimoine de la France. Il faut amener les gens à goûter leur pain. Le boulanger lui-même, il ne goûte pas son pain. Il dit, puisque moi je fais le pain, il est forcément bon. Mais ce n'est pas le cas.
Mais ça va mieux, c'est ça qui est intéressant.
Ça va beaucoup mieux.
Puisque dans votre dernier livre, Le Retour du bon pain, en particulier, mieux. Vous allez du côté de la rue Monge pour saluer deux grands boulangers qui ont réintroduit le pain de qualité. D'ailleurs, il suffit de passer dans cette rue à Paris, dans le 5e arrondissement, et pour voir les longues files d'attente pour comprendre que ce succès est patent. On se rappelle l'histoire de ce numéro de la Pravda où on avait montré dans les années 60 une file d'attente devant le boulanger Poilane.
Exactement,
pour expliquer aux Russes qu'à Paris aussi, on faisait la queue pour le pain.
Ouais.
Alors ça va beaucoup mieux.
Ça va beaucoup mieux pour plusieurs raisons. D'une part parce que on est passé de 55 000 boulangeries en 1960 à 33 000 donc aujourd'hui. On est passé donc de 900 grammes fin 19e à 150 grammes en 1990. Il fallait réagir. La première réaction, à cette catastrophe, c'était les meuniers. Les meuniers quand même qui perdaient aussi les parts de marché, qui vivaient avec la boulangerie toujours une relation très tendue. Une relation très 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 conflictuelle, mais ils ont dit, c'était surtout un type de Marseille qui s'appelait Storion, qui a inventé donc la bannette, il a dit, on va dire brutalement aux boulangers, vous ne savez plus faire du bon pain, on va vous dire comment le faire. Or, Bannette était la première enseigne à donner ce qu'on appelle un diagramme, une recette aux boulangers, de donner une farine et de faire ce qu'on appelle la communication, c'est-à-dire d'essayer donc d'aller au-delà du secteur du boulanger sur le plan national, en expliquant aux Français ce que c'était le bon pain. Les meuniers donc ont suivi, et puis après, beaucoup d'artisans géniaux eux-mêmes ont su donc relever le défi.
Ceci nous conduit, dans le passé, par un rebond historique, à ces affrontements du XVIIIe siècle entre d'un côté les corporations et de l'autre les forains. Est-ce que on oblige les boulangers à restreindre leur fabrication, éventuellement à tenir leur prix, à éviter les inconvénients pour eux de la compétition, ou bien est-ce que on laisse la libre initiative se déployer? Et à cet égard, écoutez cette archive qui remonte au 28 novembre 1980 à La Ciotat. C'est un extrait d'Interactualité, la guerre de la baguette.
Je le vends 1 franc. La baguette, et je travaille à 20%.
De bénéfices.
De bénéfices.
Et là, pourquoi vos concurrents n'arrivent pas à en faire autant?
Parce que c'est des voleurs.
Comment ça?
Ben, des voleurs parce qu'ils veulent gagner plus d'argent qu'il faut. Moi, avec 20%, ça me suffit, quoi, pour vivre.
Enfin, vous êtes bien conscient que vous faites quand même du tort aux autres boulangers de la ville.
Ah, ben, ils ont qu'à faire comme moi, investir. Ils ont qu'à investir, acheter du matériel. On s'en sortira toujours, hein. Moi, j'investis, j'ai pour 100 millions de matériel. Ils n'ont qu'à faire comme moi. Et au lieu de faire 8 heures de travail, ils n'ont qu'à faire 20 heures, le patron de travail. Ils s'en sortiront toujours. Hein.
Et la clientèle, qu'est-ce qu'elle en dit de tout ça?
La clientèle, ils en profitent. Parce que jusqu'à présent, il y a 20 ans en arrière, les boulangers ont toujours fait la loi ici dedans.
Astrid Kaplan.
Bon, monsieur Rodriguez de La Ciotat, c'était une espèce de forain au sein de la corporation. C'était un saboteur. C'était aussi un type un tout petit peu, comment dirais-je, farceur, parce que on sait qu'il fabriquait pas tout le pain qu'il vendait.
Ah bon?
qu'il allait chez les industriels à Marseille pour compléter ce qu'il avait à vendre, parce que c'était pas possible. Il travaillait pas 20 heures par jour, parce que ça c'est pas possible non plus. Histoire, c'était une histoire un tout petit peu, c'était un peu du cinéma.
Mais sinon, sa pratique, du moins son discours, rejoint cet affrontement entre les forains et les corporations au 18e.
Tout à fait, car la corporation, c'était quoi? C'était l'octroi d'un monopole à un certain nombre de gens qui, en échange, accepter de faire un travail de première nécessité, c'est-à-dire d'agir quasiment comme des fonctionnaires, comme des agents de l'intérêt général. Mais l'autorité, le pouvoir était toujours très opportuniste, et tout en donnant le monopole à ces boulangers, qui garantissaient tout de même le quotidien, ils invitaient, disons, subrepticement, disons, discrètement, un tas d'autres gens qui venaient de l'extérieur, des faux ouvriers, venaient des faubourgs, comme on disait, des gens forains qui étaient des itinérants, venant de Gonesse, venant de Versailles, venant de Melun ou de Meaux, de venir à Paris 2 fois par semaine au marché de mercredi et de samedi pour compléter donc cette offre.
Or, dans le faubourg Saint-Antoine, les faubouriens qui étaient dispensés d'appartenir à des corporations.
Écoutez, il y avait 275 faubouriens, comme on disait, sans leur apport, Paris ne mangeait pas. C'est certain, et les maîtres boulangers de la ville les détestaient. Et détestaient encore plus les forains qui venaient et qui vendaient dans la rue, qui transgressaient tous les principes donc de monopole, mais la police refusait donc de réprimer parce qu'il fallait tout de même privilégier l'offre. Sauf quand quand il n'y avait pas de problème, quand il y avait donc un excès, disons, de d'offres, à ce moment-là, la police tapait un tout petit peu sur les forains pour leur dire « faites gaffe ». Or, même chose avec ce monsieur de La Ciotat, c'était une très bonne chose pour le pouvoir à un moment donné, mais quand il y avait une espèce de panique corporative, car les boulangers, comme les paysans, ont un poids politique qui va bien au-delà de leur nombre.
On l'a vu au moment de Poujade, en particulier à la fin de la 4e République.
Voilà, donc monsieur Rodriguez s'est vite éclipsé et n'a pas vraiment laissé des traces dans l'histoire de la boulangerie.
Mais cette rivalité entre les artisans boulangers d'un côté et la boulangerie industrielle a marqué l'histoire du pain depuis quelques décennies. Et elle s'inscrit elle-même dans une longue durée, en particulier. C'est la question de l'utilisation des machines par rapport au travail individuel.
Oui.
L'invention du premier pétrin, c'est à peu près au moment de la Révolution française.
Le premier pétrin
mécanique.
On trouve un tout petit peu avant, une dizaine d'années avant la Révolution française. Il y avait, juste après la Révolution française, des concours qui étaient encouragés par Napoléon pour aller vers un système de pétrissage moins pénible. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des dizaines de machines pendant tout le 19e, même des machines qui étaient mues par la vapeur, et puis plus tard, par l'électricité. Mais il y avait une résistance de part de tout le monde à cette machine. Résistance d'abord des garçons boulangers qui craignaient pour leur emploi.
Ludisme, c'est toujours la lutte contre les nouvelles machines.
Ils voulaient casser la machine. Résistance de la part des voisins. Qui n'aimait pas le bruit que ça faisait donc dans les immeubles où il y avait des fourniles installées, et même résistant de la part des patrons qui n'avaient pas envie de payer l'assurance, de payer les frais d'énergie qu'il fallait. Et donc, ce n'était qu'à la veille de la Première Guerre mondiale qu'on peut parler de la mécanisation.
Et encore, vous nous dites dans votre livre, Stephen Kaplan, que en 1904, il y avait encore que 10 boulangeries parisiennes qui employaient le pétrin mécanique, et 6 000 sur les 45 000 que comptait l'Hexagone avant 14.
Tout à fait.
Donc, aujourd'hui, plus personne ne pétrit à la main.
Non, mais c'était une progression très 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 lente.
On a utilisé aussi l'argument de hygiénique que se mêlait beaucoup de sueur des boulangers à la pâte pendant le pétrissage.
Un argument qui allait dans les deux sens, parce qu'il y en avait qui disaient que ça donnait un espèce de piment, un assaisonnement au pain qui était magnifique, qui relevait le goût. D'autres disaient que c'était la source de la tuberculose et d'autres maladies. Et donc toutes les facs de médecine, évidemment, jetaient l'anathème sur ces pratiques. Finalement, la machine a remplacé la main vers 1920, 22, 23, 24. Et depuis ce moment-là, évidemment, il y a le pétrin mécanique. Il faut l'ajouter qu'on a fait des tests comparatifs. Le pétrissage à la main, 100 kilos à la fois, où le garçon gémissait, on l'appelait geindre pour ça, pour assurer donc son patron qui était couché avec sa femme en haut que tout allait bien. On trouvait que ça ne faisait pas un pain meilleur que le pain qui était pétri mécaniquement.
C'est un grand progrès social, en somme.
Énorme, parce que ça réduit la pénibilité de façon fantastique.
Il y a une autre donnée qui frappe dans ce cours de ce 19e et de ce 20e siècle, c'est l'opposition entre cette boulangerie industrielle, effectivement, des villes qui apparaît, qui se développe, et ce qu'il peut y avoir de symbolique dans la perpétuation du boulanger au village. On le voit très bien dans le film fameux de Pagnol, d'après Giono, La femme du boulanger, avec Rému, le boulanger trompé... Et par sa femme Ginette Leclerc. On le voit aussi dans beaucoup d'œuvres plus mineures. Par exemple, cette chanson que chante encore en 1958 Yves Montand, la fille du boulanger.
Le soleil est partout comme un autre visage, comme un ami très doux qui se donne un partage. Et ce soleil était posé sur le corsage de la fille du boulanger. Il est venu par le chemin qui passe devant la boulangerie, un garçon au rire enfantin qui vagabonde dans la ville. Et c'est comme ça qu'un clair matin, il vit la fille de 20 ans. Il lui demanda un morceau de pain et son cœur se trouva content. Dans sa musette, il y avait 3 pommes de l'amitié pour tous les hommes. Il eut envie d'y ajouter un bel amour et le garder. Et leur bonheur est né comme un pétard d'un sou, comme une ronde enfantine qui éclate partout, comme le rond de farine qu'il y a sur le bout du nez de la fille du boulanger. Lui qui était useur de chemin, rôdeur d'étoiles, buveur de pluie, a fixé un jour son destin et resta dans la boulangerie. Il dit au père, j'aimerais bien que votre fille porte mon nom. Bien dit le vieux, mais pour le pain, j'ai besoin d'un bon compagnon. Dans sa musette, il y avait 3 pommes de l'amitié pour tous les hommes. Il serre maintenant dans ses mains son premier travail du matin. Dans sa musette, il y y avait trois pommes de l'amitié pour tous les hommes. Le bel amour qui leur sourit va les mener au bout de la vie.
Beaucoup d'attendrissement nostalgique dans cette chanson d'Yves Montand de 58, Steve Kaplan.
Il y a des choses formidables dans cette chanson. D'abord, ces trois pommes, ça me fait penser aux trois disettes qui font la dot d'une fille de boulanger. Le boulanger qui est costaud. Cette fille de boulanger, elle est très convoitée par le compagnon qui travaille dans le fournil. Le fournil, c'est un endroit extrêmement érotique où les gens sont à moitié nus, où il y a une chaleur, il y a donc la transpiration. Il y a les hommes qui sont dans un climat, assez tendu. Et ces garçons-là, ils aspirent à la maîtrise, ils aspirent à l'indépendance. Et ça passe souvent par le mariage avec la fille. Or, le boulanger, le maître, ne veut pas donner sa fille à un compagnon. Il préfère donner sa fille à le fils d'un autre boulanger parce que ça constitue un réseau commercial beaucoup plus intéressant. Donc, il y a ces tensions-là. Et la fille de boulanger, certainement au XVIIIe siècle, elle est interdite d'entrer, de descendre plutôt, parce que le boulanger était trop glaudite, de descendre dans les caves, parce qu'on craignait que les garçons-là, qui n'avaient pas le temps d'avoir une famille, qui bossaient vraiment toute la journée, qui allaient souvent au boxon, comme on disait, et qui buvaient trop, qu'ils étaient capables, donc, de faire des
comportements illicites.
Tout à fait.
Et peu respectueux.
Et donc, le maître boulanger était assez garde, mais la fille, souvent, était tentée de descendre pour voir ce qui se passait. Donc, pour ça, je crois que Montand, il capte là quelque chose de formidable et puis de permanent, donc, dans cette histoire-là.
C'est pas le moment encore où on a vu arriver cette pâte surgelée. Non. Qui a tellement marqué la boulangerie industrielle et qui vient cristalliser un peu plus tard cet affrontement entre les boulangers, ceux que Raffarin a défendu quand il était en charge du commerce et de l'artisanat.
Jusqu'à la fin, j'allais dire que jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait vraiment pas de pain industriel. Il y avait quelques tentatives de monter, surtout pour les collectivités, une production dite industrielle, à l'échelle industrielle, mais ça ne marchait pas. C'était surtout avec la présence américaine en France après la guerre, qu'il fallait fabriquer du pain style américain, un pain mi-tranché.
Le pain jaquet en particulier.
Voilà, c'était jaquet qui était une réponse au shape. C'était pour faire plaisir à Monsieur Eisenhower, le général Eisenhower. C'était pour nourrir les troupes américaines que vraiment, c'était le premier coup de pouce à l'industrialisation du pain.
Et pas seulement l'arrivée de Coca-Cola, l'arrivée du pain en tranche.
Ça va ensemble. Ça va ensemble.
Alors, très loin des traditions françaises.
Loin, 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 loin. Mais
ça justifie des réactions, des réactions nationales et presque chauvines.
Mais jaquet était très malin. Il a compris qu'il trouvait peut-être des méthodes de faire aussi le pain à la française, et il en faisait. Le gouvernement à l'époque croyait un tout petit peu que l'avenir passait justement par l'américanisation. Déjà dans les fournils des artisans, on allait avec le pétrin mécanique à deux vitesses, avec machine à façonner, machine à diviser, on allait vers une surmécanisation. Or les industriels, ils faisaient ça sur une échelle vaste, ils avaient des fours rotatifs où ils pouvaient, dans des filets, cuire des milliers de baguettes dans une heure. Or, ça, c'était déjà quelque chose de terrible, avec l'émergence en même temps des hypermarchés, des supermarchés qui avaient besoin, qui étaient des points froids, comme on disait, qui avaient besoin du pain sur un plan massif. Là, les industriels faisaient donc la fourniture. Et puis, un peu plus tard, c'était le truc qui était catastrophique pour les boulangers, c'était des terminaux de cuisson ou avec le surgelé.
Qu'est-ce que c'est les terminaux de cuisson?
C'est donc une espèce de petite boutique. Il n'y a pas de boulanger, il n'y a pas de gens qui ont une formation quelconque. Il y a des gens qui savent simplement allumer donc un système électrique. On met du pain qui arrive déjà en chariot, mais qui est surgelé dans le four. On appuie un bouton et en 12 minutes normalement, on a d'abord une odeur un peu trempeuse, mais tout de même du pain. Et on peut donc donner du pain style Ciotta pour un franc ou deux.
Vous avez l'air de souffrir, Steven Kaplan, en décrivant ce processus.
Pour moi, ça, c'est une forme de transgression profonde. C'est une forme de trichage pour moi. Mais en même temps, je suis réaliste. C'est aussi une réponse à une certaine demande, parce que ça donne du pain à bon marché, et ça donne du pain quand le pain déjà artisanal était mauvais. Donc si le pain artisanal n'était pas très bon, et si on donnait ce pain-là, un pain qui durait 3 minutes, parce qu'après 10 minutes, c'était un pain desséchés, impossibles à manger. Ça devenait une matraque de CRS. C'était pas la peine, mais c'était à peu près de bonne guerre à ce moment-là, et il fallait réagir parce que quand le terminal, ça exigeait pas d'investissement, rien, ça s'établissait en face de la boulangerie, l'artisan, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il fallait qu'il fasse mieux, il fallait qu'il travaille sur le plan de la qualité. Il savait plus faire ça, il a oublié comment faire du bon pain. Ces béquilles, c'était l'acide ascorbique, c'était donc la mécanisation, c'était un système industriel à l'échelle artisanale, et il fallait s'en sortir.
Enfin, cette évolution, il faut s'attacher à l'attitude des autorités. Vous évoquiez tout à l'heure le responsable de la police sous Louis XIV, Larigny, son souci d'assurer l'approvisionnement. La préoccupation de nourrir la population pour éviter les émeutes, elle est toujours, on la retrouve pratiquement encore à la Libération. D'où le soutien à l'industrie. Et puis d'autre part, il y a le souci de défendre les boulangers eux-mêmes. À certains moments, les corporations, la profession des boulangers. D'un côté, 1947, de l'autre, Jean-Pierre Raffarin, que vous évoquez dans cet article du Monde, en 1997, défend ses illustrations de la profession boulangère.
Tout à fait.
Au service, si possible, de la satisfaction du public.
Voilà. Donc il y a une double ambivalence. Il y a une ambivalence du côté de la boulangerie dite artisanale ou corporative qui souhaitait depuis toujours à la fois d'être protégée et d'être libre. C'est-à-dire, c'était une espèce d'aporie, c'était une contradiction. Il disait constamment, laissons-nous mettre notre prix, laissons-nous faire comme on veut. Et en même temps, chaque fois qu'ils étaient menacés, soit par des forains, soit plus tard par les industriels, ils criaient à l'État, venez nous aider.
Il n'y a pas que les boulangers. Non, il y a beaucoup de patrons dans bien des domaines qui ont la même attitude. C'est intrinsèque à notre histoire collective.
C'est le capitalisme, un peu partout, au moins selon Brodel. Et puis, il y a de l'autre côté, l'État. Et l'État a aussi un double jeu. D'un côté, l'État reste toujours prince nourricier. Il est obligé d'intervenir pour que le peuple soit nourri. De l'autre côté, l'État souhaite pouvoir se désengager pour pouvoir donc laisser à l'entreprise le travail, donc le soin de faire tout ça.
Tout en rendant très volontiers image au pain dont l'histoire est intimement mêlée à notre histoire nationale, à notre sensibilité collective. Écoutez, vous allez tout de suite reconnaître celui qui nous parle le 13 janvier 1997.
C'est un des grands charmes, le pain, de notre civilisation, de notre art de vivre. C'est, je reçois beaucoup de monde ici, et notamment beaucoup d'étrangers, des chefs d'État, de gouvernement, leurs ministres, leurs collaborateurs, et nous déjeunons ensemble. Tout à l'heure, j'ai un déjeuner avec le président de la République d'Azerbaïdjan. Et je suis toujours très frappé de voir, quand le déjeuner se déroule, que tous nos autres étrangers mangent beaucoup de pain. Et il m'est arrivé très très souvent, il m'arrive presque chaque fois, que mon voisin, qui est en général un ministre ou le chef d'État qui est en face de moi, me dise « Est-ce que je pourrais avoir un peu plus de pain, s'il vous plaît ?» Tout simplement, ce pain, et notamment notre baguette traditionnelle, le reste aussi, bien entendu, est véritablement quelque chose qui force l'estime et l'admiration de nos hôtes étrangers, en raison de sa qualité. J'observe aussi, vous savez que je vais de temps en temps au Japon, et qu'un pays que j'aime bien, et j'ai fait aussi une observation, c'est qu'au Japon, quand vous voyez à Tokyo, à Osaka, ailleurs, une queue, ce qui est rare au Japon, vous pouvez être assuré que c'est une boulangerie française.
Jacques Chirac accueillait les représentants de la boulangerie parisienne lors de la fameuse galette des rois en janvier 1997. On imagine guère Stephen Kaplan, votre président américain George Bush, s'exprimer de la sorte dans une cérémonie similaire.
Non, il mange plutôt les bretzels et il est étouffé par ça, mais... Je crains qu'il n'a pas l'élégance et le goût pour apprécier le pain français, même de bonne qualité. Monsieur Chirac, c'est formidable parce que depuis son passage à la mairie, il était l'ami ardent des artisans. Il disait à un moment donné que le pain industriel n'est pas même un pain chrétien. C'est pas un pain qui remplit les conditions de ce que c'est donc cet aliment sacré. Ici, il évoque la baguette de tradition qui est une baguette de qualité. Le problème, c'est justement cela, c'est-à-dire il fallait retrouver une qualité traditionnelle pour que le pain puisse redémarrer. Il dit à juste titre, il évoque le Japon, car à un moment donné, un des grands experts du pain en France, qui s'appelle Raymond Calvel, qui était un des premiers à aller au Japon, apprendre aux Japonais à faire le pain français avec le blé américain, il faut le dire, qu'elle leur disait qu'on faisait une meilleure baguette à Tokyo qu'à Paris, donc à la fin des années 80.
Il fallait réagir.
Il fallait réagir.
Alors, il y a un autre dirigeant de PME qui a vendu des boulangeries sous forme de kits dans beaucoup de pays d'Europe centrale avec une efficacité reconnue.
Tout à fait. Et c'est vrai qu'à l'étranger, l'engouement pour le pain, c'est pas simplement le stéréotype de français rougeau, baguette sous le bras. C'est qu'à New York aujourd'hui, et à Tokyo aujourd'hui, et un peu ailleurs, le pain fait des conquêtes énormes. Mais il faut que le pain fasse des conquêtes en France également. Sinon, je crains que la France va devenir un pays à deux vitesses, où il y aura une espèce d'élite qui va manger un bon pain.
France d'en haut.
Style, voilà.
Toujours Raffarin.
Et tout à fait. Un pain style Poilane. Et puis le reste de la France va rester sur une baguette.
France d'en bas.
Sur une baguette, la France d'en bas, une baguette insipide. Et or, il y a...
C'est une opposition binaire que nos analystes savants des votes et des comportements sociologiques n'ont pas peut-être suffisamment souligné.
Mais non, voilà, mais c'est là où l'État intervient.
Ils interviennent pour lever la réglementation des prix. Grand débat.
Grand débat, et les boulangers d'abord sont absolument ravis, mais il y a des dérapages.
C'est à quel moment ça se passe?
C'était d'abord en 78, et l'État revient... Donc, un espèce de taxation, et c'était au début des années 80, finalement, que le pain est libéré. Et tout de suite avec cette libération, beaucoup de boulangers ont la nostalgie pour le moment où le pain était taxé, contrôlé, car ils disaient, nous pouvions jouer donc à l'époque sur la qualité, et maintenant nous sommes obligés de jouer à la fois sur le prix et la qualité. Et à ce moment-là, la boulangerie artisanale comprenait bien qu'il fallait faire autre chose. La meunerie mettait la main sur la boulangerie. La boulangerie artisanale avait l'impression d'être asphyxiée. La boulangerie s'est tournée vers l'État, son ennemi héréditaire, et a demandé à l'État d'intervenir. Et par deux fois, d'abord avec M. Balladur en 93, et puis plus tard avec M. Raffarin en 95, l'État a fait deux choses très importantes. D'abord, l'État a créé, c'est quand même incroyable, l'État a créé un pain d'appellation contrôlé.
Quel pays, dit l'Américain.
Mais c'est formidable que la boulangerie qui voulait être libérale, qui revendiquait sa liberté, doit demander à l'État, s'il vous plaît, donnez-nous donc ce label qui va nous permettre de mieux assumer la concurrence grande surface et industrielle.
Comme pour les vins appellation contrôlée, d'origine surveillance par les pouvoirs publics, voilà. Il y a vraiment une étiquette légitimée.
Tout à fait. Or, ce pain-là, je dis tout de suite à vos auditeurs, ça s'appelle le pain des traditions françaises, pas le pain évoqué par M. Chirac, mais un pain dit de tradition française. C'est un pain merveilleux, c'est le seul pain aujourd'hui qui vaut vraiment votre affection, votre fidélité. C'est un pain fait avec une longue première fermentation, sans additifs, qui donne une geyser d'arômes et de goût. C'est superbe, mais il n'y a que 12-15% des boulangers qui en font. Ça, c'était donc M. Balladur, le décret pain de 93, et puis un peu plus tard.
Donc il a fallu une intervention que vous trouvez légitime, heureuse, féconde.
Jacobin, étatique, faite par les gens qui revendiquaient le libéralisme. Enfin, M. Balladur n'était pas un type qui voulait avoir la réputation d'être le robespierriste.
En effet, non, Robespierre et Balladur, ça jure ensemble.
C'est pas la même chose. Et puis un peu plus tard, mais de façon, disons, très fin, M. Raffarin a compris qu'il fallait donner aux boulangers cette dénomination exclusive d'être boulanger, au poste se définir boulanger, pour se réclamer d'être boulanger, il fallait façonner son pain, pétrir son pain, cuire son pain sur le même lieu où on va le vendre plus tard. Or là, c'est donc un décret cassé plus tard par le Conseil d'État, rétabli par Madame Le Branchu.
Quand elle était chargée de la consommation.
Voilà, et or là, c'était pour la droite et la gauche, même combat. Le pain, c'est le patrimoine. Le pain, tout de même, c'est le grand symbole.
Transpartisan, comme souci.
Tout à fait. Et le pain, surtout, Raffarin a dit une chose très importante. Que le pain n'est pas que un objet économique, l'enjeu n'est pas que économique ou commercial. L'enjeu est culturel et social. Le pain tisse le lien social. Le pain, c'est une source de sociabilité, de subsidiarité, si je puis dire. C'est le pain de l'exception culturelle française. Or là, il a vraiment, pour moi, trouvé une bonne recette, un bon diagramme, comme diraient les boulangers.
D'où le temps très enthousiaste et très, très optimiste pour la suite de son gouvernement, de l'article que je citais en commençant. Vous nous dites qu'il y a une méthode Raffarin, une façon de mettre la main à la pâte, avec cette utilisation de la symbolique. Il a compris quelque chose dans l'ordre du symbolique.
Il a compris que les boulangers étaient déprimés. Il a compris aussi que pour que ça remonte, il fallait à la fois un encadrement réglementaire, mais il fallait surtout une remise en cause psychologique et pratique de la part de la boulangerie. Il a demandé des contreparties. Il a donné pas mal du côté de l'État. Il a créé la fête du pain, qui était une bonne idée, mais il a aussi donné des moyens de mieux travailler. Et je crois que cette capacité de rentrer dans le malheur de l'autre, mais d'amener l'autre sans l'humilier, c'est ça quand même qui est peut-être le mérite de ce monsieur très modeste, entre guillemets, qui est le Premier ministre.
J'observe que votre livre sur les boulangers de Paris au XVIIIe siècle était paru l'année précédente, était paru en 1996, enfin concomitamment à cette action de Raffarin. Vous avez sûrement lu, et il avait compris qu'il y avait une permanence, puisque déjà sous l'Ancien Régime, comme vous le montrez très bien, ce monarque, figure nourricière en même temps que paternelle, veille à tout ça. Et d'ailleurs, nous avons tous appris dès le petit Lavis, c'était nos manuels de classe, que le peuple de Paris était venu à Versailles en octobre 89 pour ramener à Paris le boulanger, la boulangère et le petit Mitron.
Et ça reste quand même l'éthique de l'économie morale, ça reste tout de même la base du contrat social en France, et l'État reste toujours le boulanger de dernier recours.
Pendant les émeutes frumentaires de la guerre des farines, la fameuse guerre des farines de 1775, les sujets criaient « Vive le roi !» et « Que le pain ramande », c'est-à-dire que le pain baisse.
Voilà, il fallait que, pour que le roi reste légitime, il fallait qu'il remette le prix à son juste niveau dans le sens thomiste, dans le sens, disons, catholique, historique, c'est-à-dire que ça doit être accessible au petit peuple, et ça donne au roi le droit, donc, de demander au petit peuple de se faire tuer dans les guerres et de payer les impôts.
En somme, le pain, c'est symboliquement la base de la paix sociale. C'est pourquoi on le retrouve également au centre du slogan en forme de triptyque, comporté tant d'actions collectives, tant de revendications sociales. Le pain, la paix, la liberté, qu'on retrouve dans cette chanson de l'époque du Front Populaire, 1936.
Peuple souverain, quand sur les Bastilles, demain le soleil mettra sa clarté. Viens clamer au ciel que tu veux qu'il brille pour le pain, la paix et la liberté. Quand le blé français pourrit dans les granges, pourquoi le chômeur n'a-t-il pas de pain? Lorsque l'on détruit le fruit des vendanges, pourquoi le chômeur n'a-t-il pas de vin? Peuple, quand la faim creuse ta poitrine et qu'à tes appels le puissant dit non, pourquoi permets-tu que dans les usines des maîtres ventrus forgent des canons? Quand l'enfant du pauvre est sans nourriture, pourquoi les pourceaux ont-ils trop de lait? Quand le travailleur n'a qu'une masure, pourquoi la faveur a-t-il des palais? Peuple souverain, quand sur les Bastilles demain le soleil mettra sa clarté, viens clamer au ciel que tu veux qu'il brille pour le pain, la paix et la liberté.
Le pain, la paix et la liberté, c'est le grand slogan du combat du Front Populaire, repris en particulier par le Parti communiste français. Maurice Thorez a eu beaucoup ses mots à la bouche.
Oui, et ça reprend tout de même des revendications qui sont ancrées dans l'histoire française. D'abord, le pain, c'était la promesse du roi, c'était, disons, le fruit d'un paternalisme. Le roi allait donner du pain, il allait garantir du pain. À la Révolution française change l'affaire, non pas sur le plan, disons, pratique, parce que c'est toujours un droit à l'existence qui est garanti, mais désormais, c'est le peuple qui a le droit. C'est pas parce que le bon roi veut bien, c'est parce que le peuple a comme patente son estomac, son ventre, Et en tant qu'homme, chaque homme a le droit d'exiger du pain. Mais il y a
d'où l'effet ravageur du mot prêté à Marie-Antoinette dans la légende noire de la reine.
Évidemment.
Sinon pas de pain, qui mange de la brioche.
Évidemment, qui est un mot terrible parce que c'est plein de mépris. Évidemment, c'est une formule un peu contestée, mais on retrouve cette formule de diverses façons.
On a cru qu'elle l'avait dit, en tout cas, même si elle l'a pas dit.
Mais c'était tout à fait vraisemblable qu'elle avait dit. Mais ce qui est intéressant, c'est que avec donc la Révolution française, au milieu de cette révolution, il y a d'un côté les gens qui crient. Le pain et la constitution de 93, c'est-à-dire la constitution sociale, la constitution robespierriste, et puis de l'autre côté, il y a les contre-révolutionnaires, et qu'est-ce que eux, ils font crier par les gens de la Vendée ailleurs? Le roi et le pain. C'est-à-dire qu'ils disaient que la meilleure garantie d'avoir du pain, c'est d'avoir un roi, et de l'autre côté, les jacobins disaient, les sans-culottes, la meilleure façon d'avoir une garantie, c'est d'être libre et d'avoir la garantie d'avoir une justice sociale et inscrite dans la Constitution.
Et ça, c'est omniprésence du pain au cœur des combats politiques et des combats sociaux.
De façon permanente.
Et ça continue sous la révolution industrielle.
Tout à fait. Et il y a toujours d'ailleurs les femmes qui sont en première ligne parce que le signe qu'il s'agit d'une émeute qui n'est pas une émeute ni partisane ni frivole, c'est quand les femmes qui incarnent donc la nourriture par leur corps même sont en première ligne dans ces émeutes qui persistent, on les retrouve en 48, on les retrouve même à l'époque de la Commune, on les retrouve à New York pendant la Dépression. Et il y avait une quarantaine d'émeutes aux États-Unis, dont une trentaine à New York quand même.
On voit les raisins de la colère.
C'est l'économie morale, encore une fois, c'est l'exigence. On ne peut pas nous refuser notre pain et on n'a pas à mendier ce pain désormais à l'État. L'État nous doit ça parce que sinon, ce n'est pas la peine d'avoir fait justement l'État et la société, le contrat social.
Avec l'idée aussi que ce sont des accapareurs qui gardent la farine, avec l'idée que l'on détruit. Le capitalisme absurde détruit le pain alors qu'on pourrait le donner. C'est très clair dans la chanson que nous venons d'entendre. Et puis cette formule que j'aimerais que vous commentiez d'un certain nombre d'électeurs extrêmes qui peuvent croire que pain coupé n'a pas de maître.
Le pain coupé n'a pas de maître, c'est-à-dire que le pain qui est entamé, soit de façon symbolique, parce que c'est sur la table des gens, soit de façon physique, parce que c'est justement coupé, ce pain-là est un pain que tout le monde peut prendre. On a le droit de s'approprier ce pain-là, parce que c'est le pain qui marque l'égalité des citoyens. Et justement, l'accaparement reste la grande angoisse. Et l'expression de cette angoisse, c'est toujours le complot de famine, d'une manière ou d'une autre, cette conviction que c'est toujours une conspiration qui explique ce qui se passe. Si c'est donc les inondations de la Somme récemment, complot donc des Parisiens, ou si c'est donc le complot de famine qui a éclaté au XVIIIe siècle et qui reste une espèce de leitmotiv permanent.
Eh bien, nous allons nous en tenir là, Stephen Kaplan.
Mais on peut dire tout de même que même aujourd'hui, quand on a plein de choses à table, s'il nous manque du pain, on a toujours une espèce de faim dans notre imaginaire.
C'est vrai, ceux qui nous ont écoutés en prenant leur petit déjeuner ont sûrement témoigné en mettant du beurre sur leur pain qu'ils étaient attachés à cette nourriture fondamentale. Mais j'espère, Steve Kaplan, que cette conversation qui prend fin n'aura pas paru à nos auditeurs longue comme un jour sans pain. Je rappelle le titre de vos deux ouvrages que j'ai souvent évoqué au cours de notre conversation. Le meilleur pain du monde, les boulangers de Paris au XVIIIe siècle, que vous aviez publié chez Fayard en 1996, concentrant votre attention sur l'Ancien Régime, et puis ce très beau livre que je recommande à tous les citoyens et tous les gourmands d'aujourd'hui, Le retour du bon pain, qui vient de paraître chez Perrin, un livre à la fois très sévère et très optimiste. C'était Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet, avec Agnès Chauveau et Vanina Profisi, réalisation Patrick Molinier, prise de son Bernard Charron, documentation Virginie Vincienne et pour les archivinats Véronique Jolivet.
En lui disant c'est délicieux quand j'en avais horreur. Du pain et du
France Culture présente Vers un pays lointain, dialogue sur l'Antiquité. Un voyage inspirant dans le passé pour découvrir les richesses du temps et mieux comprendre notre présent.